France Culture.
La science CQFD, Natacha Trioux.
C'est une science naissante, l'étude des petits objets interstellaires, astéroïdes ou comètes venus de systèmes planétaires lointains qui traversent furtivement le nôtre. Que peuvent nous apprendre ces passagers clandestins ? On s'en doutait, mais depuis 2017, nous en avons la preuve. Notre système solaire est un carrefour où des vagabonds interstellaires ne font que passer. Oumuamua, le premier identifié, puis Borisov, et enfin la comète Atlas, détectée cet été et qui transite par ici. Elle serait même âgée de 7 milliards d'années, tandis que notre système solaire, lui, n'en a que 4,6 milliards. C'est une aubaine, car ils portent en eux une chimie étrangère et une autre histoire stellaire. Mais le défi est de taille, ils ne font que passer et sont aussi difficiles à débusquer qu'à étudier, on part à leur poursuite. Objet interstellaire, il voyage en solitaire. Alain Le Cavelier des Étangs, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et nous sommes en ligne avec Sean Raymond, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien CNRS, directeur du laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici, en direct, dans nos studios à France Culture. Et merci à vous d'être là au rendez-vous, en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à suivre cette émission tout en nous suivant sur Blue Sky. On publie pour vous de nombreuses ressources, des infographies, enfin de nombreuses choses qui viennent nourrir votre écoute. C'est à retrouver sur notre compte @sciencecqfd. Alors, quels sont ces corps stellaires de passage dans notre système solaire? Comment distinguer une comète d'une exocomète? Et quels sont les différents scénarios qui expliquent leurs origines? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, Alain Le Cavelier des Étangs, que recoupe le terme objet interstellaire?
Alors, par définition, un objet interstellaire, c'est un objet. Donc, ça pourrait être une planète, une étoile, un petit corps, astéroïde, comète de quelques kilomètres. Mais là, quand on parle d'objets interstellaires, on se réduit plus exactement à des petits corps, comètes, astéroïdes de quelques kilomètres. Et objet interstellaire, ça veut dire qu'il est entre les étoiles, dans le milieu interstellaire. Donc c'est un objet qui n'est pas lié à une étoile, qui ne tourne pas autour d'une étoile, qui vagabonde entre les étoiles. Et par chance, on en a observé trois récemment qui ont traversé notre système solaire, des vagabonds du milieu interstellaire.
Des vagabonds, en effet, il y a une autre catégorie d'astres vagabonds. Sean Raymond, ce sont les planètes vagabondes, les rogue planètes.
Oui, exactement. Cela, il s'agit des corps beaucoup plus gros, donc vraiment des objets planétaires comme la masse de Jupiter ou même plus massif que ça, que l'on trouve pareil aux objets interstellaires qui ne sont pas liés gravitationnellement à une étoile, mais comme les étoiles orbitent autour du centre de la galaxie. Et on en a trouvé quelques centaines maintenant de ces planètes flottantes.
On a fait une découverte qui date de 1997. Alors là, pour cette émission, on va essentiellement parler de ces trois objets, petits objets. Mais Alain Le Cavelier des Étangs, comète et astéroïde, petit béaba, quelle différence entre les deux?
Alors, la différence, c'est que l'on voit pour les comètes une queue. D'ailleurs, le terme comète vient du grec coma, qui désigne une chevelure, donc en fait une queue. C'est vraiment ce qui différencie ce petit corps. Quand il s'évapore, il produit une queue, et du gaz et de poussière. Contrairement à un astéroïde, qui lui est un petit corps rocheux, qui ne s'évapore pas, complètement inerte, comme on en connaît plein dans le système solaire. Les comètes ont la chance d'avoir cette queue qui permet de les voir plus facilement.
Et on verra justement comment on en a débusqué une grâce à sa queue. Mais comme je le disais dans mon introduction, c'est une science naissante et elle est née avec cette détection.
Un astéroïde interstellaire pour la première fois dans notre système solaire. Il a la forme d'un cigare, il est baptisé Oumuamua. Certains scientifiques ont pu l'observer pendant plusieurs jours malgré sa vitesse de déplacement particulièrement impressionnante.
C'est un étrange visiteur de 400 mètres de long, un astéroïde qui ressemble à un cigare. Et c'est d'ailleurs cette forme qui a mis la puce à l'oreille des astronomes. Elle n'a rien à voir avec les météorites observées habituellement. En étudiant sa trajectoire, les scientifiques ont déterminé que son orbite ne peut pas avoir comme origine notre système solaire. Il a donc voyagé des centaines de millions d'années avant de s'approcher de la Voie lactée et d'être repéré il y a quelques jours par un télescope américain basé à Hawaï. Les astronomes se doutaient que de tels objets passaient dans notre système solaire, mais c'est la première fois qu'ils en identifient un avec certitude. Ils vont suivre sa progression encore quelques semaines avant que cet astéroïde ne disparaisse dans l'immensité de l'espace.
Voilà, c'était le 20h de France 2 en 2017. Jeanne Raymond, à partir de cette détection, il y a une sorte d'urgence de la situation. On a vu tous les plus grands observatoires de la planète qui ont justement essayé d'observer cet intrus en fuite.
Oui, c'est ça. Après sa découverte en mi-octobre 2017, il y avait, pendant les deux semaines qui suivaient, il y avait des centaines de demandes de télescopes pour essayer d'observer cet objet. Par contre, sa luminosité diminuait tellement rapidement que la fenêtre d'observation ne durait seulement à peu près 10 jours. Donc, toutes les données que nous avons, ça vient de cette fenêtre assez courte.
Cette luminosité, c'est aussi l'une de ses caractéristiques, Alain Le Cavalier des Étangs. Que peut-on dire justement de la luminosité de Oumuamua et puis également de sa vitesse dont il était question dans cette archive?
Oui, alors en fait, ces objets, on les voit parce que on les identifie parce qu'ils vont très vite. C'est ça qui les différencie des objets du système solaire, les astéroïdes, les comètes qui tournent autour du Soleil. Ils vont vraiment très vite et ils vont plus vite que la vitesse de libération, la vitesse nécessaire pour s'échapper du système solaire. La Terre tourne autour de la Terre à 30 km par seconde. C'est pas suffisant pour s'échapper de la gravité du Soleil. Mais un objet qui tournerait autour du Soleil à une unité astronomique du Soleil, au-delà de 42 km par seconde, il aurait une vitesse suffisante pour s'échapper. Et bien là, pour Oumuamua, c'est exactement ce qu'on a observé. On a observé qu'il venait des fins fonds de la galaxie à une vitesse de 26 km par seconde. Donc, une vitesse suffisante pour s'échapper du système solaire et ne faire que le traverser. Alors après, vous m'interrogiez sur la luminosité. C'est de petits corps, on vient de l'entendre, quelques centaines de mètres, au maximum quelques kilomètres, qui sont très loin. Et donc, on n'en voit qu'une très très faible luminosité. Il n'est pas question de pouvoir les voir à l'œil nu ou même avec une petite paire de jumelles. Et c'est ce qui rend leur détection extrêmement difficile.
C'est ça. C'est... On estime à peu près 120 mètres de large pour 20 mètres d'épaisseur. Pour sa forme, il y a plusieurs hypothèses. On a parlé d'un cigare ou d'une grosse crêpe, voire même d'un frisbee. Sean Raymond, une de ses particularités également, c'est que cet objet tourne sur lui-même, mais aussi avec une seconde rotation qui est assez. Alors, je ne sais pas si elle est étonnante, mais qui est assez caractéristique également de cet objet.
Oui, elle a une rotation qui est un peu chaotique, donc c'est pas très régulier. On le voit. Et comment est-ce qu'on voit cette rotation? C'est qu'on mesure la brillance de l'objet dans le temps et on voit que ça fait des oscillations, mais des oscillations qui se recouvrent pas exactement, qui se répètent pas exactement. Donc on voit que c'est pas parfaitement périodique comme on l'attendrait si c'était en rotation très très normale. Et on voit aussi de l'amplitude de ces oscillations de brillance. Ça veut dire que la forme est élongée, étirée. Et pourquoi ça? C'est parce qu'on voit la lumière réfléchie du Soleil. Donc, de temps en temps, on voit une surface qui est plus grande, comme si c'est la forme d'un frisbee. On voit la frisbee en face. Et ensuite, quand elle est de très faible luminosité, c'est qu'on le voit par la tranche.
Alors par rapport, justement, on voit bien que par sa forme comme par ses mouvements, Oumuamua est donc hors norme dans la population connue des astéroïdes. Mais d'abord, Alain Le Cavalier des Étangs, on a d'abord nommé Oumuamua C2017U1. On l'a pris pour une comète au départ, puis on l'a reclassé en astéroïde.
Oui, parce que en fait, on n'a pas détecté cette chevelure, cette coma, cette queue nécessaire pour avoir la classification d'un astéroïde. Donc c'est ce qui a permis, ce qui a imposé de donner le nom d'un astéroïde. Et après, finalement, quand on a réalisé que c'est un objet qui venait du milieu interstellaire, de l'espace entre les étoiles, on a créé une nouvelle catégorie pour nommer ces objets. Et c'est devenu l'objet 1I 2017.
I
pour interstellaire. Et par exemple, pour les autres comètes et astéroïdes, etc., on utilise d'autres lettres. Par exemple, pour les comètes périodiques, qui ont une période inférieure à 200 ans, on utilise la lettre P. Et la comète qui porte le nom de 1P, elle est fort connue, c'est la comète de Halley. C'est la première pour laquelle on a pu mesurer la période qui a fait la découverte de Halley, qui a fondé les bases de la gravitation newtonienne. Et donc là, on a créé en 2017 une nouvelle catégorie d'objets, une nouvelle nomenclature pour ces objets. Et le premier, c'est Oumuamua.
Oumuamua qui signifie en hawaïen messager venu de loin et arrivé le premier. Alors le problème d'Oumuamua, Sean Raymond, c'est que donc on n'a pas de traces de queue, pas de coma, pas d'enveloppe de gaz diffuse. Alors comment étudier la composition de cet objet ?
Oui, c'était très dur. On a des indices très indirects sur sa composition, mais rien de très précis. Les indices qu'on a qui sont un peu indirects, c'est qu'on peut mesurer la lumière réfléchie dans différentes couleurs, donc dans différentes bandes de longueur d'onde de lumière, et voir à quoi ça ressemble. Si ça reflète plus de lumière rouge ou de lumière verte ou de lumière bleue. Et ce qu'on voit, c'est que sa surface ressemble pas mal à la surface d'astéroïdes qui sont un peu hydratés ou même des cœurs de comètes. Donc pas des comètes qui ont les chevelures dont on a parlé, mais des comètes très lointaines où on voit juste la glace ou les roches de surface. Donc en premier vue, ça ressemble à ça.
Vous vouliez compléter, Alain, le cavalier
de temps. Oui, et dans ces couleurs, il y a des indices que finalement ce matériau a été altéré par son long voyage dans le milieu interstellaire, où justement il a reçu de nombreuses radiations, et qui a altéré la surface solide, qui est devenue un peu plus rougeâtre peut-être, comme les comètes lointaines dans le système solaire.
On parlait de sa rapidité, c'est aussi quelque chose qui a laissé quand même les chercheurs perplexes. Cet objet a subi une accélération non gravitationnelle. Sean Raymond, il y a une autre force qui contribue à son mouvement, c'est ce qu'on appelle donc un système de propulsion interne.
Oui, c'est ça. Ça, c'est une découverte très étonnante de Oumuamua. Donc, comme je disais avant, il y avait une fenêtre d'observation. Donc, la grande majorité des observations étaient prises dans une fenêtre de seulement 10 jours, à peu près après sa découverte, en octobre 2017. Mais un mois plus tard, avec juste un télescope, le télescope Hubble de la NASA, ils ont pu le détecter, pas en très grande précision, mais ils ont pu mesurer la précision de Oumuamua. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que si on suivait une trajectoire purement gravitationnelle, l'objet devrait être dans une certaine position, mais elle était décalée. Elle était décalée assez qu'il y avait dû avoir une autre force qui a contribué à ce qu'elle soit pas dans le bon endroit, entre guillemets. Et cette force, c'est cette force non gravitationnelle dont on parle, qui serait à l'inverse de la gravitation. Donc, au lieu d'être attiré vers le Soleil, ça le repousserait. Et il y a un grand débat de exactement ce que c'est, quelle force dont on parle. Est-ce que c'est du dégazage, par exemple? Est-ce qu'un petit peu de gaz s'est échappé de ce petit corps? Et comme une fusée, la rétroaction l'a fait accélérer un petit peu. Et donc c'est ça, ça crée une assez grosse controverse là-dessus.
Oui, parce que pour les comètes, le dégazage, quand une comète s'approche du Soleil, sa surface glacée s'évapore, des gaz sont expulsés dans l'espace, et c'est cette éjection qui exerce une petite force supplémentaire qui influe sur la dynamique de la comète, Alain Le Cavalier des Étangs.
Oui, c'est un peu comme la fusée ou l'avion à réaction, au fond. Hein, c'est la même chose. Un avion à réaction, c'est un avion qui dégaze, et qui est la poussée du gaz fait propulser l'avion ou propulser la fusée pour les réacteurs d'une fusée. Mais c'est la même phénomène, une comète, c'est comme un avion à réaction, c'est comme une fusée interplanétaire ou interstellaire pour ces objets, avec du dégazage qui pousse, et là dans le cas présent, qui pousse vers l'extérieur.
Alors quelles sont les autres informations qu'on a pu rassembler sur la nature des comètes Borisov et Atlas ? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD. Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Alain Le Cavalier des Étangs et Sean Raymond, nous parlons de ces petits objets interstellaires, des comètes ou astéroïdes qui viennent d'autres systèmes solaires que le nôtre. On vient de parler de Oumuamua, le tout premier objet détecté, et puis parlons maintenant de ces deux autres. Et tout d'abord, cette comète de I. Borisov. Le 30 août 2019, Gennady Borisov, astronome russe amateur, repère cette comète qui n'est encore répertoriée nulle part. Et là encore, Sean Raymond, une alerte mondiale est lancée.
Oui, c'était une autre découverte très très choquante, pas choquante mais très excitante. Et ce monsieur Borisov, il a découvert cet objet en étant très malin. C'est assez bien connu dans le domaine des petits corps qu'il y a des zones qui dans le ciel où il y a plus de probabilité de détecter des petits corps. Et ces zones sont très proches du Soleil. Donc, c'est très dur de les accéder parce qu'avec des grands télescopes, on ne veut pas pointer directement vers le Soleil. On va endommager la caméra. Donc, on essaye d'aller au plus près, mais pas trop près. Et M. Borisov, il avait son propre télescope et lui, il a pris le risque d'aller un petit peu plus proche du Soleil. Et il a pu détecter Borisov en premier, l'objet qu'on appelle Borisov, grâce à ça. C'était très malin de sa part et c'était une très grosse découverte.
Mais au départ, on a pensé qu'il y avait même un risque de collision avec la Terre quand justement cet astronome a fait cette détection.
Oui, Borisov, en fait, il a utilisé un télescope de 65 cm, qui est quand même un bel objet pour un astronome amateur, lui-même, pour faire ses recherches. Et donc, il a vu, dès qu'il a détecté cet objet, il a cherché à contacter le Minor Planet Center, l'endroit où on collecte toutes les informations sur les petits corps. Et sa première réaction a été de voir qu'en rentrant les propriétés de son observation, l'objet pourrait être dans les géocroiseurs, les objets qui croisent la Terre. Géo, comme la Terre, géocroiseur, les objets qui pourraient et potentiellement rentrer en collision avec la Terre. Mais là, c'était juste les premières mesures. Des mesures ultérieures faites les jours suivants ont confirmé que l'orbite ne croisait pas du tout l'orbite de la Terre. Il n'y avait aucun risque de croiser la Terre.
Mais justement, quelle a été l'orbite de cet objet, Sean Raymond?
Donc, comme Oumuamua, c'était une orbite, ce qu'on appelle hyperbolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que c'est une orbite qui n'est pas liée au Soleil. Donc, Borisov a fait, en fait, tous les objets interstellaires, en fait, ils font des survols, ils passent à travers notre système. Ils viennent assez proches du Soleil pour subir une déflexion à cause de la gravitation du Soleil et ensuite ils s'en vont. Donc, elle s'est approchée du Soleil. Sa vitesse, si on soustrait la contribution de l'accélération du Soleil, Borisov bougeait déjà avec une vitesse d'une trentaine de kilomètres par seconde. Et donc, en s'approchant du Soleil, elle s'est accélérée encore plus grâce au Soleil. Et maintenant, elle s'en va et elle repart.
C'est que sa trajectoire a à peine été courbée par la gravité solaire, c'est ça?
Oui, et puis un point important aussi, c'est son inclinaison de cette orbite par rapport aux planètes. Vous savez, les planètes du système solaire qui tournent toutes autour du Soleil, quasiment dans le même plan, ce qu'on appelle le plan de l'écliptique qui définit les constellations du zodiaque d'ailleurs. Hein. Donc, tous les objets du système solaire, les planètes, les astéroïdes, certaines familles de comètes, pas toutes, mais certaines familles de comètes tournent dans le même sens et dans le même plan. Là, cette comète, elle a un angle de 44 degrés par rapport au plan du système solaire. C'est aussi un indice que c'est quelque chose qui vient d'ailleurs.
Alors l'indice majeur, ça a été sa fameuse coma. Borisov est enveloppé dans une immense coma de gaz et de poussière 14 fois plus grande que la Terre, Sean Raymond.
Oui, c'est ça. Donc, même si Oumuamua, c'était un objet un peu différent et il y a plusieurs mystères qui sont liés à ses caractéristiques physiques et orbitales, Borisov se comportait beaucoup plus comme une comète entre guillemets normale. Donc, elle avait une coma, cette chevelure, et elle ressemble beaucoup plus à ce qu'on attendait d'un objet plutôt comme les comètes que l'on connaît, mais qui vient d'ailleurs et qui traverse notre système.
Un comportement plus normal, mais est-ce que sa composition l'était tout autant, Alain Le Cavalier des Étangs?
Oui, on a pu mesurer la présence d'eau, de molécules CO, des poussières silicatées, etc. Ça ressemble vraiment à une comète du système solaire. Et ça, c'est important pour nous. Ça veut bien dire que, parce que ces objets viennent d'autres systèmes planétaires, et ça veut bien dire que ces objets formés dans des systèmes extrasolaires, d'autres étoiles que le Soleil, sont liés et ont été formés par des processus similaires aux processus qui ont formé les petits corps, les planètes, dans le système solaire.
Autre découverte très importante dont on entend beaucoup parler depuis cet été, Sean Raymond, c'est notre troisième objet, la comète Atlas. Le 1er juillet dernier, la comète 3I Atlas est repérée donc par le télescope Atlas de l'Observatoire chilien, d'où son nom. Et là encore, on a une série de télescopes et d'observations qui se concentrent sur cet objet-là.
Oui, exactement. Ça, c'est ce qui est excitant avec cet objet, c'est qu'il a été détecté plus en amont de son approche du Soleil que les autres. Donc, on a une fenêtre d'observation qui est beaucoup, beaucoup plus longue. Donc, on arrive à avoir beaucoup plus de données sur cet objet. Il y a beaucoup plus d'équipes qui utilisent des instruments différents sur des télescopes différents pour essayer de le sonder et de comprendre de quoi elle est faite et ses origines. Et par rapport aux autres, elle bouge même plus rapidement, mais on a pu la détecter plus en amont, comme je disais. Elle bouge à près de 60 km par seconde avant d'entrer le système solaire.
Ça représente 3 à 5 fois la vitesse des comètes du nuage d'Oort et de la ceinture de Kuiper, Alain Lecavalier des Étangs.
Oui, oui, bah là, en 60 km par seconde, c'est une vitesse, comme je comparais tout à l'heure, la vitesse nécessaire pour s'échapper, pour que la planète Terre puisse s'échapper. Là, on est vraiment dans des orbites extrêmement, enfin, une vitesse très rapide, des orbites extrêmement hyperboliques, enfin, pour utiliser un terme mathématique, l'excentricité de 6, alors que Borisov, on a une excentricité à peine supérieure à 1, c'est juste un petit peu plus pour ne pas être lié au Soleil. Borisov, c'était 3, et là, on passe à une vitesse donc de 60 km par seconde, excentricité de 6. C'est vraiment un objet qui va traverser à toute vitesse le système solaire et qui va le traverser en sens inverse. C'est un objet qui va arriver de derrière. C'est extrêmement intéressant pour comprendre son origine, l'étoile dont il est originaire, et qui va traverser le système solaire dans le plan du système solaire que je décrivais à l'instant, mais dans le sens inverse des planètes. Et donc, il va croiser la planète Mars, qu'il a déjà croisée. Il va croiser Jupiter. Il va passer pas très loin de Vénus. Pas de chance. Il va passer de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre. La Terre sera pas bien placée pour le voir bien, mais on peut l'observer de Mars. Et j'ai vu il y a quelques jours que on a pu faire des observations avec une mission martienne. Une mission martienne qui a été pointée vers cet objet pour le voir à partir de Mars.
Depuis l'orbite martienne. Et en effet, elle devrait revenir observable depuis, dans nos horizons, depuis, début décembre à peu près. Alors, vous décrivez presque un bolide à contresens. Sa taille est assez mal évaluée. Les estimations du diamètre de son noyau, ça va de 400 mètres à 5,6 km. Globalement, 99% des comètes sont dans cette fourchette-là, à peu près.
Oui,
si je dis pas de bêtises.
C'est la taille typique d'une comète du système solaire. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que ces objets sont vraiment semblables aux comètes. On aurait pu trouver que des objets de 100, 200 km en beaucoup plus grand nombre. Et là, les premiers, alors on n'en connaît que 3. Hein. Et évidemment, si on en détecte 10 000, il y aura certains qui seront plus gros que ces quelques kilomètres, comme dans le système solaire. Mais c'est bien la preuve que la taille typique des objets de cette nature, c'est la même taille que les objets de cette nature dans le système solaire, donc des mécanismes de formation similaires aux mécanismes de formation des planètes et du système solaire.
Une taille typique, mais quand même quelques surprises. Hein. La première surprise révélée grâce au spectre obtenu par le JWST, le James Webb, c'est sa composition, Sean Raymond. Elle est différente de celle de la plupart des comètes locales.
Oui, elle montre quelques différences de composition. Je n'ai pas en tête toutes les différences. Alain a peut-être plus que moi.
Oui, en fait, la différence essentielle, c'est une grande abondance de CO2, ou le dioxyde de carbone dont on a déjà beaucoup entendu parler. Alors, en fait, on détecte dans ces comètes, dans le système solaire, dans ces comètes, le gaz qui se sublime. Parce que pourquoi finalement ça se produit? C'est des boules de glace. De glace, de monoxyde de carbone, de glace carbonique, de glace d'eau, et donc de glace aussi de CO2. Et quand ces objets s'approchent de leur étoile, les comètes du système solaire s'approchent du Soleil, ces glaces sont chauffées, alors elles se liquéfient pas comme la glace qui se transforme en liquide. Dans le vide, la glace se sublime, ça devient du gaz immédiatement. Et là, ce qu'on a observé, donc on a observé de l'eau, du CO, du CO2, mais la fraction de CO2 est plus importante que la fraction de CO2 dans les comètes du système solaire. Alors ça reste un mystère, aujourd'hui on n'a pas d'explication.
On n'a pas d'hypothèse
Évidemment, demandez aux scientifiques de trouver une explication à quelque chose d'inconnu, ils en trouveront toujours. Il y a un certain nombre d'hypothèses, je ne sais pas quelle est la bonne, c'est peut-être lié au passage dans le milieu interstellaire qui a solidifier une croûte très très solide et il y a juste le CO2 qui peut s'échapper en plus grand nombre par rapport à la molécule d'eau. Bon, il y a des travaux encore à faire dans les années. On vient juste de la découvrir.
Et on n'a pas fini de l'observer. Alors on vient de faire voilà, ce rapide petit portrait de visiteur, mais d'où viennent tous ces objets? Pourquoi est-il si difficile de détecter ces objets interstellaires? Et que projette de faire la mission Comet Interceptor? Restez à l'écoute, on y arrive. Astéroïde Witch de Ghost Power en direct sur France Culture, car nous parlons de ces objets interstellaires, astéroïdes, comètes à la dérive dans le milieu interstellaire, voire intergalactique, et qui croisent le chemin de notre système planétaire. On en parle avec nos deux invités du jour, Alain Le Cavelier des Étangs, directeur de recherche CNRS à l'IAP, Sean Raymond, astrophysicien CNRS, directeur du laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. On a parlé de la première détection de l'astéroïde Oumuamua en 2017, qui a permis d'ouvrir cette nouvelle famille d'objets célestes. On a décrit les comètes Borisov, puis Atlas. Sean Raymond, on n'a pas tout à fait encore parlé d'où viennent des origines de ces objets-là. Alors, quelles sont les hypothèses autour déjà de Oumuamua, pour commencer?
Donc, pour Oumuamua, il y avait beaucoup d'hypothèses qui ont été proposées parce que c'était un objet tellement étrange. Il n'y avait pas de détection d'évaporation, de coma, c'est-à-dire de cette chevelure cométaire. Par contre, il y avait toujours cette accélération non gravitationnelle, une forme bizarre, une rotation chaotique. Donc, il y a eu une dizaine d'hypothèses en termes de son origine. Il y avait des hypothèses assez banales, enfin, comme le mien que j'ai proposé, que c'est juste des restes de la formation de planètes autour d'autres étoiles qui se sont fait éjecter dans le milieu interstellaire. Et certains sont passés à travers notre système, mais il y avait des hypothèses beaucoup plus exotiques que ça. Par exemple, l'idée que ça soit des objets qui s'étaient formés autour de naines blanches, des objets qui étaient virés de systèmes binaires où il y avait deux étoiles et des objets qui encerclaient ces deux étoiles. Il y avait même des hypothèses que c'était des objets qui étaient affectés par des supernovas auprès de cela. Et on est toujours en train de raffiner ces hypothèses. Avec Oumuamua, c'est très difficile parce que les données sont tellement limitées que c'est dur à vraiment falsifier ces hypothèses.
Oumuamua, on a aussi entendu dire que c'était un vaisseau spatial alien et la preuve d'une intelligence extraterrestre. C'était en plus une hypothèse d'un célèbre astrophysicien, mais ça ne sert à rien de s'étendre sur cette hypothèse-là. Alain Le Cavelier des Étangs, justement sur la trajectoire d'Oumuamua, hein, je crois que si on regarde la direction, il provient de la constellation de la Lyre, c'est ça?
Oui, en fait, elle vient de la direction dans laquelle on s'attend à voir le plus d'objets pas parce que c'est une direction privilégiée pour l'espace interstellaire, mais c'est une direction privilégiée pour le système solaire. C'est la direction dans laquelle se propage le Soleil dans la galaxie, dans la Voie lactée. Et le Soleil se propage vers une direction qu'on appelle l'apex, qui se situe entre Vega, la constellation de la Lyre, et Hercule, pour ceux qui connaissent le ciel d'été. Le Soleil va dans cette direction, donc on s'attend à ce que la plupart des objets interstellaires que l'on va voir proviennent de cette région, et c'était le cas pour Oumuamua. Donc, un objet tout à fait ordinaire, et l'explication proposée par Sean Raymond d'un système extrasolaire qui a éjecté quelques petits corps et qu'on en capte quelques-uns de temps en temps, me semble la plus naturelle, et vraiment, je crois qu'on n'a pas besoin d'explications exotiques pour dire les choses. Et en science, souvent, l'explication la plus simple est probablement la meilleure. Pour Atlas, c'est très 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 différent, parce que Atlas ne vient pas de l'apex, et c'est ça qui fait sa grande spécificité, c'est qu'il vient d'une direction très très différente, il vient de la direction du Sagittaire. Alors pour ceux qui connaissent le ciel d'été, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose, la Lyre, Vega et puis le Sagittaire, et donc c'est une direction qui est en dehors du plan de la Voie lactée, la galaxie, notre galaxie, la Voie lactée, c'est un disque d'étoiles. Toutes les étoiles du ciel sont des étoiles de la Voie lactée. Et cet objet vient en dehors de ce plan. Donc probablement une étoile plus âgée qui est autour de laquelle cet objet est né, qui a été éjecté. Et donc un objet extrêmement âgé, certains ont proposé 7 milliards d'années. Je crois qu'en pratique, ça veut dire un objet très âgé, peut-être plus âgé que le système solaire.
Mais alors comment, Sean Raymond, quels sont les mécanismes en jeu pour que ces objets puissent être éjectés de leur système planétaire, parcourir des années-lumière de distance et à de telles vitesses?
Oui, ça, c'est pas évident si on réfléchit pas souvent à ça. Donc on pense que les planètes se forment dans les disques de gaz et de poussière autour de jeunes étoiles. Donc, si les planètes se forment là, ils devraient être sur des orbites assez circulaires et orbiter autour de leur étoile, comme la Terre fait autour du Soleil, comme Jupiter et les autres planètes le font. Par contre, dans un système qui forme des planètes géantes comme Jupiter, ces planètes géantes, ils peuvent donner des coups gravitationnels assez forts aux petits objets s'ils passent trop près. Donc, dans notre système solaire, par exemple, si une comète croise l'orbite de Jupiter, ce qui se passe sur le long terme, ça prend des centaines de milliers, voire des millions d'années, son orbite se fait perturber et ensuite ça reçoit des accélérations gravitationnelles quand ça passe très près de Jupiter, jusqu'à ce que Jupiter les balance entièrement dans le milieu interstellaire. Ça lui donne tellement d'énergie que ce petit corps peut s'en aller du système, de s'éloigner du Soleil et ne jamais revenir. Et quand ça arrive, ce serait l'origine d'un objet interstellaire. Et ensuite, ces objets interstellaires se baladent dans la Voie lactée comme les étoiles. Et de temps en temps, juste par hasard, ils passent près d'une étoile et ils le traversent. Et donc, c'est comme ça l'histoire qu'on envisage pour beaucoup au moins de ces objets interstellaires.
Alain, le cavalier des étangs, genre justement, ces objets interstellaires, ça veut dire qu'ils viennent de systèmes stellaires plutôt jeunes?
Alors, ils peuvent venir de jeunes dans le sens qu'ils ont été éjectés au moment très très peu de temps après la formation du système planétaire. Vous savez, pour le système solaire, c'est 4,6 milliards d'années. Et donc, effectivement, les systèmes très très jeunes ont sans doute énormément de petits corps en cours soit d'agglomération pour donner naissance aux planètes, ou après la formation des planètes, des petits corps qui restent et qui sont éjectés par l'interaction gravitationnelle, comme on vient de l'expliquer. Et donc, la plupart des corps interstellaires sont probablement éjectés au moment de la genèse du système solaire. Mais évidemment, c'est plutôt statistiquement plus probable jeune. Le système solaire avait plein de petits corps il y a 4,5 milliards d'années, et les planètes ont nettoyé ces petits corps. Il en reste un petit peu. On peut voir des comètes, comme on a vu la comète Lemon il y a quelques semaines de cela dans le système solaire, mais il y en a quand même beaucoup moins qu'il y a 4,5 milliards d'années. Et on observe des étoiles très jeunes qui ont effectivement énormément d'activités cométaires, de comètes. Finalement, ces comètes interstellaire. On en avait déjà observé, enfin, on n'avait pas observé de comètes interstellaires, mais on avait déjà observé des comètes de systèmes extrasolaires dans ces systèmes extrasolaires, en particulier les systèmes planétaires jeunes.
Alors, à quel point ces objets interstellaires sont-ils si rares que ça? On poursuit avec notre deuxième archive.
Quand on est suffisamment loin de la Terre, on dit qu'on se trouve dans le vide interplanétaire. Entre les planètes, il règne donc un bon vide. Toutefois, ce vide est tout de même souillé de beaucoup de poussière et de beaucoup de gaz. On peut comparer le système solaire à un chantier de démolition ou de fabrication de planètes, si vous voulez. Le fait qu'il y ait des matériaux est démontré par leurs apparences lorsqu'ils sont éclairés. La lumière zodiacale, c'est le reflet de ces poussières éclairées au moment du coucher ou du lever du soleil.
Il y a des cailloux, il y a des matières entre
les planètes circulent des comètes, des bolides, des particules de l'ordre, disons, d'une tête d'épingle que nous nommons, quand elles viennent s'enfoncer dans notre atmosphère, que nous nommons des étoiles filantes. Ce sont ces graviers qui viennent s'enflammer et briller dans la haute atmosphère terrestre.
Et qui sont soumises, quand elles ne sont pas attirées justement par une planète ou par une autre masse, aux lois perpétuelles de la gravitation.
Elles sont soumises aux lois de la gravitation, mais ces particules très légères subissent toutes les perturbations de tous les astres qui garnissent le milieu interplanétaire. Alors, quand on s'éloigne d'une étoile et de son système de planètes, on aborde le milieu qu'on appelle le vide interstellaire, le vide d'étoile à étoile. Chacun sait que les étoiles sont des corps analogues à notre Soleil.
Mais le mot vide, là, est encore relatif.
Eh bien, c'est un vide encore meilleur que le vide interplanétaire, mais ce n'est pas le vide absolu. Il y aura moins de cailloux, moins de gravier, mais il restera du gaz.
Qu'est-ce que le vide spatial? Dans l'émission Rive droite, rive gauche et l'astronome Paul Couderc sur la RDF en 1949, Jeanne Raymond, voilà à quel point ces objets interstellaires sont-ils rares?
Oui, donc grâce à la découverte de Oumuamua et en connaissant à peu près l'efficacité du télescope Pan-STARRS qui a mené à cette détection, on a estimé que des objets de la taille de Oumuamua, il y en avait un pour tous les 10 unités astronomiques cubes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend une boule de la taille du système solaire, de la taille de l'orbite de Neptune, qui fait 30 fois la taille de l'orbite terrestre, et on fait une sphère de cette taille-là, il devrait y avoir des dizaines de milliers de ces objets à l'intérieur de cette sphère. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas tous? C'est parce qu'il s'agit d'objets qui sont tellement petits et tellement sombres qu'on peut seulement les détecter quand ils passent très proches de nous. Donc, à la fin, il y a beaucoup, beaucoup de ces objets entre les étoiles, les objets interstellaires, et on débat toujours exactement combien, mais il y en a beaucoup, c'est juste qu'ils sont tellement petits et tellement sombres qui sont pas du tout faciles à observer.
Alain Le Cavalier des Étangs?
Oui, on pourrait déjà se demander, mais comment ça se fait qu'on a fallu attendre 2017 pour en découvrir 3 en 8 ans? C'est incroyable si on y réfléchit. Pourquoi on n'a rien découvert jusqu'en 2017, puis tout d'un coup, entre 2017 et 2025, on en détecte 3?
Et pourquoi?
Oui, et bien pourquoi? Et ben, c'est le développement des grands télescopes ce sont des petits télescopes, mais qui font des grands surveys, des grands relevés du ciel, avec les caméras électroniques, avec des grands capteurs, des choses qu'on pouvait pas faire il y a même une vingtaine d'années au fond. Hein. Donc on a un développement des instruments qui permettent de surveiller le ciel avec une efficacité infiniment plus grande que ce qu'on pouvait faire il y a 10, 15 ou 20 ans. Et on peut déjà projeter à ce qu'on va pouvoir faire quand les instruments en développement aujourd'hui entreront en fonction. Par exemple, l'observatoire de Vera Rubin, qu'on appelle aussi le LSST, qui va faire un relevé du ciel sud tous les quelques jours, 3-4 jours, je crois. Eh bien, avec cet instrument qui est déjà bientôt en opération, on pourra détecter des objets interstellaires, peut-être 1 à 10 par an, dit-on, et en savoir beaucoup plus sur la population, combien il y a d'objets dans dans le milieu interstellaire. Mais les nombres que Sean Raymond vient de nous donner sont tout à fait normaux, parce que chaque étoile est entourée d'un système planétaire, et chaque étoile a des milliers de comètes. De temps en temps, il y en a une qui s'échappe. Donc c'est normal que le milieu interstellaire soit peuplé de ces débris de la formation des planètes, les objets interstellaires.
Il y a aussi des milliards de nos objets à nous, de notre système, qui doivent se promener dans le milieu interstellaire. Et c'est ce dont on parle tout de suite avec le reportage du jour. Les objets interstellaires nous révèlent donc que le système solaire n'est pas un monde isolé ni étanche, mais peuplé aussi de corps venus d'ailleurs. Réciproquement, les corps formés au sein de notre système pourraient, eux, devenir un jour des objets interstellaires étrangers pour d'autres systèmes stellaires. C'est le cas d'une comète récemment identifiée que vous êtes allé découvrir au laboratoire d'instrumentation et de recherche en astrophysique de l'Observatoire de Paris-Meudon. C'est avec vous, Céline Lozette, bonjour.
Bonjour Natacha, oui, il s'agit de la comète C2023-A3 ou Tujinsan Atlas, découverte en janvier 2023 en Chine par l'Observatoire de la Montagne Pourpre, puis par le télescope sud-africain du programme Atlas. Elle a tout de suite attiré les traqueurs de comètes pour comprendre sa composition, sa trajectoire depuis son origine du nuage de Oort. Nicolas Bivet, astrophysicien et président de la commission des comètes de la Société astronomique de France, nous explique comment s'opère l'étude de sa composition, de son histoire et de son destin, potentiellement hors du système solaire.
L'hypothèse des comètes interstellaires, c'est pas nouveau. Ça fait des dizaines d'années qu'on se dit on devrait voir un de ces quatre une comète interstellaire. Alors quand il y a eu le premier objet là, en 2017 au Oumuamua qui a été découvert, on se dit enfin voilà. Parce que quand on fait le parallèle entre le Soleil et les autres étoiles, maintenant d'ailleurs qu'on trouve plein d'exoplanètes autour d'autres étoiles, donc on sait que le système solaire n'est pas seul comme en tant que système d'étoiles plus planètes, plus aussi nuages de gaz et de poussière, nuages type de ceinture de Kuiper et tout ça. Et ce qu'on voit, c'est que notre Soleil et les planètes, de temps en temps, éjectent des comètes. On a des comètes qui passent près du Soleil, alors... La comète Tujinsan Atlas, c'est peut-être une comète justement qui ne reviendra jamais. Parce qu'elle a reçu un petit peu une accélération en passant près du Soleil. Et donc, elle va quitter définitivement le système solaire. Donc, c'est une comète qui va devenir une comète interstellaire éventuellement pour un autre système stellaire, un de ces quatre, quoi. Donc, on s'est dit, de manière réciproque, ça veut dire qu'il y a des étoiles qui doivent éjecter des comètes. Et comme il y a 100 milliards, 200 milliards d'étoiles dans la galaxie, multipliées par... si on dit 500 milliards de comètes, ça fait des milliards de milliards de comètes qui doivent voyager entre les étoiles. Donc pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas, quoi ? La comète Tujinsan Atlas, alors, c'est une comète qui vient du nuage de Oort, donc qui est quasiment, alors, comme on dit, à son premier passage. Alors, ceux qui calculent exactement les orbites disent que finalement les comètes qui arrivent directement au nuage de Oort, peut-être que la première fois, elles passent assez loin du cœur du système solaire, c'est-à-dire qu'elles passent au-delà des planètes géantes, donc on ne les voit pas, mais bon, en général, c'est la première fois, en gros, qu'elles sont vraiment chauffées par le Soleil. Après ça, donc, il y a des comètes qui sont gazeuses, d'autres qui sont poussiéreuses. Tujinsan Atlas, elle s'est réveillée assez poussiéreuse, et ça s'est vu assez rapidement, d'ailleurs, c'est-à-dire que même avant qu'elle soit très près du Soleil, avec le comportement de sa luminosité, en fait, et surtout, en fait, un effet particulier qu'on a vu, au moins, elle était très brillante là vers la mi-octobre, c'est que quand elle est riche en poussière, elle aura tendance à diffuser la lumière du soleil d'une manière particulière. Si c'est du gaz, le gaz ne diffuse pas la lumière du soleil de la même manière que la poussière. Donc, c'est ça qui l'a fait très brillante, donc je dirais jolie à voir pour le commun des mortels. Mais d'un autre côté, ça cachait le fait qu'elle n'avait pas très riche en gaz, quoi. Donc, c'était une comète qui venait du nuage de Oort et riche en poussière, parce qu'il y en a qui sont riches en gaz, quoi.
Est-ce que les observations ont permis de déterminer son âge ? Parce qu'on sait que le nuage de Oort héberge des sortes de fossiles, ces comètes qui ont au moins l'âge du système solaire. Est-ce qu'on peut affiner vraiment leur âge par des observations en spectrométrie ou en images directes ?
Alors, j'ai envie de dire que non. Enfin, les modèles nous disent que, de toute manière, toutes les comètes, elles sont formées il y a 4,56 à quelques dizaines de millions d'années près. Et donc, non, on n'a pas accès vraiment à l'âge de ces objets. La seule chose qu'on pourrait dire, et qui pourrait être peut-être mis en œuvre dans le cas de la comète 3I Atlas, c'est qu'il y a des éléments isotopiques, comme le carbone 13, dont l'abondance dans le système solaire, en gros, on a un carbone 13 pour 90 avec carbone 12, qui est la forme la plus courante du carbone. Et apparemment, ce rapport de 1 pour 90, il est un peu caractéristique du système solaire ou de la période à laquelle le Soleil s'est formé. Et il est possible pour un objet formé beaucoup plus tôt dans la galaxie, hein, ce qui peut être le cas de la comète Royer Atlas, ce rapport était différent. Parce qu'on s'attend à ce que les espèces un peu plus lourdes en isotopes, donc le carbone 13 est plus lourd que le carbone 12, peut-être c'est le cas aussi de l'azote 15 par rapport à l'azote 14, etc., soient formées en abondance de plus en plus grande au fur et à mesure du temps, parce que c'est synthétisé dans les étoiles, et plus l'objet est formé récemment, plus la matière est récente, plus elle a été processée dans les étoiles, et plus elle peut être riche en ces éléments-là.
Donc ça veut dire que si on a des rapports isotopiques qui sont non familiers, on peut supposer qu'ils n'appartiennent pas aux vestiges du système solaire, mais qui proviennent d'ailleurs du milieu interstellaire.
Voilà, du milieu interstellaire. C'est-à-dire que là, il est possible, justement, ça, si on trouve un rapport comme ça, donc si la comète elle est plus pauvre en carbone 13, par exemple la comète A3 Atlas, hein, ça pourrait dire qu'elle s'est formée plus tôt que les comètes du système solaire. Parce qu'elle s'est formée à une époque où dans la galaxie, il y avait moins de carbone 13 que maintenant. Pour qu'une comète vienne d'une autre galaxie, il faudrait que la vitesse soit comparable à la vitesse du Soleil dans la galaxie, qui est d'ordre de 200 et quelques kilomètres par seconde.
C'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur.
C'est pas les mêmes ordres de grandeur, voilà.
Par quelle technique instrumentale on arrive à observer cette formation de nuages de Oort et les comètes qui la peuplent?
Alors en fait, là symboliquement, j'ai représenté en gros la formation du système solaire.
Là vous avez fait un zoom arrière, et là on a vu émerger cette structure du nuage de Oort qui a des distances incommensurables.
En gros, il est 1000 fois plus loin. On parle d'une distance, on est passé de 40 unités astronomiques, donc la distance moyenne de la Terre au Soleil, à 40 000 unités astronomiques. Hein.
Ouais. Donc on peut considérer ce volume, cette sphère, où le centre, le tout petit point, est le système solaire.
Voilà ça. En fait, on est en gros entre une demi et une année-lumière du Soleil. Et en gros, cette limite à environ de l'ordre d'une année-lumière ou une demi-année-lumière, c'est un petit peu la limite du champ de gravité du Soleil. Au-delà, depuis 5 milliards d'années, il y a des étoiles qui sont passées, il y a aussi la force de gravité de la galaxie. Donc tout ce qui est au-delà n'a pas pu rester physiquement lié au Soleil. Après ça, il y a même des hypothèses qui disent qu'il y a un nuage de Oort interne qui serait peut-être à moins de 10 000, 5 000 unités astronomiques, qui lui est beaucoup plus stable que la partie externe qui est vraiment la limite et qui a pu évoluer au cours du temps.
Merci Céline Lozen. Nos reportages loin du studio pour se frotter à la science telle qu'elle se fabrique au quotidien, c'est notre collection La Science au Labo, et c'est à podcaster sur l'application Radio France. Jeanne Raymond, une réaction à l'écoute de ce reportage?
Oui, c'était très intéressant. Juste un petit truc à rajouter pour quand on modélise l'évolution du système solaire très précoce, la formation des planètes et leur évolution dynamique, on constate que le système solaire, comme on a dit, crée des objets interstellaires. On pense que dans son histoire, elle a probablement éjecté au moins une vingtaine de masses terrestres dans des comètes. Donc, c'est-à-dire des 20 fois la masse de la Terre distribuée dans des milliards et des milliards d'objets vaguement cométaires ou même un peu d'astéroïdes qui ont été éjectés dans le milieu interstellaire, ainsi que peut-être 5 ou 6 planètes flottantes, planètes de la un peu plus massives que la Terre, probablement assez glacées. Donc, pour reproduire ce que nous avons maintenant, il faut des phases de formation du système solaire qui ont dû aboutir à ça. Donc nous-mêmes, nous avons produit beaucoup de ces objets interstellaires qui se baladent dans la galaxie maintenant.
On entendait dans ce reportage parler de l'importance de mesurer certains rapports entre isotopes dans la queue de comète. Le rapport isotopique, c'est un peu comme l'ADN, ça nous donne accès aux conditions physiques qui régnaient au moment où cette matière a été emprisonnée dans la comète. Alors c'est une des raisons pour lesquelles, Alain le Cavalier des Étangs, c'est une des raisons pour lesquelles la composition chimique d'une comète, ça nous intéresse tant, par exemple pour Atlas.
Oui, la composition chimique, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens cherchent à faire des mesures spectroscopiques qui nous donnent combien il y a de CO2, comme je le disais tout à l'heure, ou même la composition isotopique qui a été évoquée tout de suite, parce que finalement, les molécules de CO2, c'est un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène, Mais le carbone, c'est lui, il a un noyau avec 6 protons, 6 neutrons, ça fait le carbone 12, le carbone qui nous compose tous. Et de temps en temps, cet atome a un neutron en plus. Ça reste un carbone, parce qu'il y a toujours 6 protons, l'élément numéro 6 de la table de Mendeleïev. Mais par contre, il a un neutron en plus, ça fait du carbone 13, un petit peu plus massif. Et ce carbone 13, quand il est dans la molécule CO2 ou CO, il se condense à des températures différentes de la molécule classique avec le carbone 12. Et donc, avoir les rapports isotopiques, ça nous donne des informations sur la température à laquelle le matériau s'est condensé au moment de la formation, et donc la distance de l'étoile à laquelle il s'est formé. Et donc, c'est tous ces éléments qui sont des traceurs de l'histoire des systèmes planétaires, comment on a formé ces corps à partir de l'agglomération de petites poussières, donné des petits corps, puis ces corps, comment ensuite ils ont voyagé dans les systèmes planétaires. Et Sean Raymond pourrait en parler beaucoup plus longuement de moi, parce qu'il a étudié cette question en long, en large, en travers, et formé à la fin des planètes, et éventuellement leur apporter des éléments comme l'eau. L'eau sur la Terre vient peut-être d'une comète, et on a pu le déterminer. Enfin, on pose les questions avec les rapports isotopiques, par exemple, parce que la composition isotopique de l'eau sur Terre est différente de la composition isotopique des atomes d'hydrogène du milieu interstellaire. C'est une trace de l'origine de l'eau sur Terre. Les compositions isotopiques des objets interstellaires sont les traces de leur histoire.
Cette question de l'origine de l'eau sur Terre, Sean Raymond, en effet, c'est cette hypothèse de la panspermie, des objets qui sont là pour transporter de la matière.
Oui, c'est l'idée qu'on pense depuis longtemps que l'eau sur Terre est, entre guillemets, exogène, c'est-à-dire que la Terre s'est formée en grande partie à partir d'objets qui étaient assez sèches, et ensuite l'eau a été transportée, livrée vers nous, avec des corps hydratés qui sont tombés dessus. Cette hypothèse est un peu remise en question avec des mesures météorites récemment, mais en même temps, on essaye d'évaluer combien de l'eau sur Terre est venue de quelle source en utilisant des mesures isotopiques de l'eau. Donc le rapport entre le deutérium, ce qui est l'eau avec un neutron de plus par rapport à l'eau normale, entre guillemets. Mmh. Et donc en faisant ça, on essaye d'évaluer la quantité d'eau qui a été livrée peut-être par des astéroïdes hydratés par rapport à la quantité d'eau qui était juste dans les roches là où la Terre s'est formée.
On comprend donc bien l'importance et les questions fondamentales que l'étude de ces objets-là pose. Alors pour conclure, puisqu'on arrive à la toute fin de cette émission, Alain Lecavalier des Étangs, on a une future mission, une idée retenue par l'ESA en 2022, c'est la mission Comète Interceptor. L'idée, c'est d'être déjà dans l'espace pour pouvoir justement être là, au taquet, si jamais un de ces objets se présente.
Oui, parce que quand un objet interstellaire comme les trois qu'on vient d'évoquer passe dans le système solaire, on le détecte, mais on le détecte au dernier moment, et ça passe très vite. Il va vite, on l'a bien expliqué, et donc il faut réagir vite. Si on est à la surface de la Terre, c'est compliqué parce qu'il y a toute la dynamique gravitationnelle, il faut s'échapper de la gravité de la Terre, et puis on n'est pas forcément au bon endroit. Donc l'idée de cette comète Interceptor, qui sera lancée en 2029 par l'Agence spatiale européenne, l'ESA, qu'on devrait connaître mieux que la NASA, c'est notre agence spatiale, c'est notre NASA européenne. L'ESA va lancer la comète Interceptor, va les mettre à 1 500 000 km de la Terre, en attente, parking, prêt à partir pour aller intercepter un objet interstellaire dès qu'il sera détecté.
Voilà, il sera garé sur le point de Lagrange L2 aux côtés du James Webb, de Gaïa, d'Euclide et d'Ariel. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbaume. Un grand merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Tout de suite, on retourne sur Terre, et plus exactement sous Terre, dans les souterrains du métro londonien, avec ses charmants moustiques. C'est la chronique avec science. Où
le moustique du métro londonien est-il né? Il s'est fait connaître pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les Londoniens, qui se réfugiaient dans les souterrains, se faisaient piquer. Et c'est toujours le cas. À Londres, et très certainement à Paris, les usagers du métro se font encore piquer par cet insecte. Son nom scientifique, c'est Culex pipiens molestus. Molestus qui vient du latin et signifie pénible. Et ce qui intrigue particulièrement les scientifiques, c'est qu'un autre membre de cette espèce existe, Culex pipiens pipiens, mais qu'il a un mode de vie totalement différent. Fabien Aubry est chargé de recherche CNRS et responsable de l'équipe génétique de la résistance des moustiques aux arbovirus de l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire à Strasbourg.
Les deux formes, Culex pipiens pipiens et Culex pipiens molestus, appartiennent à la même espèce de moustique qui est l'espèce Culex pipiens. Donc, il y a deux formes qui existent à l'intérieur. Il y a aussi d'autres sous-espèces, mais deux formes qu'on appelle les biotypes. Culex pipiens pipiens, c'est un moustique donc ornithophage qui préfère se nourrir sur les oiseaux. Il rentre en diapause pendant l'hiver. Donc, il est capable de rentrer dans un état de dormance physiologique programmée qui est déclenché par des signaux environnementaux, qui est souvent la photopériode et la température. Et il va avoir besoin de grands espaces pour s'accoupler. L'autre forme, Culex pipiens molestus, qui est aussi appelé donc le moustique du métro londonien. Lui, il est anthropophage. Il pique fréquemment l'homme, mais également d'autres mammifères, si on a l'occasion. Il est actif toute l'année. Il s'accouple dans des espaces confinés et il a aussi une autre caractéristique qu'on appelle l'autogénie, qui est la capacité de produire, en fait, une première ponte sans prise de repas sanguin. Parce que la prise du repas sanguin chez la plupart des moustiques, en fait, est obligatoire pour pouvoir pondre des œufs.
Ces deux membres de la même espèce sont physiologiquement très différents. La question, c'est pourquoi? D'où vient Molestus, le moustique du métro londonien? À quel moment a-t-il divergé de son cousin Pipiens Pipiens? Et est-ce que son adaptation s'est faite récemment? C'est pour répondre à toutes ces questions qu'une nouvelle étude parue dans Science a analysé plus de 300 échantillons contemporains et historiques de ces moustiques. Mais ils n'ont pas été récupérés dans le métro, que ce soit à Londres ou à Paris. Les chercheurs et chercheuses n'ont pas eu l'autorisation d'y accéder. En revanche, les scientifiques du consortium PIPOP, qui tentent de reconstituer l'histoire de cette espèce double, ont pu avoir accès à des moustiques des musées, à des moustiques des égouts et à d'autres moustiques prélevés en souterrain et en surface dans 44 pays différents. L'objectif de cette collecte est de comparer génétiquement les deux biotypes, Pipiens pipiens et Molestus, pour voir si ce dernier a beaucoup changé, s'il a beaucoup divergé de son cousin dans les deux derniers siècles. Résultat, le moustique du métro londonien n'est pas né dans le métro et il n'a même pas grandi au Royaume-Uni.
Ce qu'ils ont constaté, c'est qu'il y avait eu peu de changements en fait sur cette période d'environ 75 ans. Donc les populations de Molestus n'ont pas vraiment bougé génétiquement parlant sur cette période. Et ce qu'ils ont montré avec cette étude, c'est qu'en fait Molestus a développé en surface, dans des régions méditerranéennes chaudes et urbanisées, des traits physiologiques et des comportements adaptés à la vie proche de l'homme. Il l'a fait il y a environ 1000 à 10 000 ans et c'est ces mêmes traits qui sont révélés ensuite parfaitement adaptés, donc un petit peu par hasard, aux conditions des milieux souterrains tempérés d'Europe du Nord. C'est ce qu'on appelle un phénomène d'exaptation, donc une adaptation ancienne réutilisée pour un nouvel environnement.
L'hypothèse dominante voulait que l'adaptation ait été très rapide. Il n'en est rien. Et ce n'est pas tout à fait étonnant. 75, 100 ou même 200 ans à l'échelle d'une espèce, c'est un temps trop court pour qu'un animal développe de nouvelles caractéristiques. Molestus avait donc déjà tout ce qu'il faut pour vivre sous terre. Ce que montre l'étude, c'est que le moustique du métro londonien vient du sud de la Méditerranée, vraisemblablement autour de l'Égypte. Ce serait l'apparition de communautés denses, sédentaires et agricoles dans les 10 derniers millénaires sur la vallée du Nil qui lui aurait permis de voir le jour. Molestus aurait divergé génétiquement de son cousin Pipiens pipiens à ce moment-là, puis serait monté vers le nord en se réfugiant dans des espaces confinés pour profiter de la température plus stable jusqu'à terminer son périple dans le métro. Et au-delà de l'évolution et de la génétique, il y a un enjeu de santé publique. Les deux formes, Pipiens pipiens et Molestus, parce qu'elles sont de la même espèce, peuvent s'hybrider, se mélanger et faire des petits. L'hybride devient donc capable de piquer à la fois les oiseaux et les humains, avec un risque de transférer des virus comme celui du Nil occidental. Reconstituer cette histoire évolutive permet donc d'anticiper comment ces moustiques pourraient à l'avenir faciliter l'émergence ou la diffusion de nouveaux pathogènes.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et un grand merci à toute l'équipe de la science CQFD. À la réalisation, c'était Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Alex Dang. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.